Le Québec, en libéralisant la fabrication et le commerce de la bière, a permis l'émergence de nombreuses entreprises dynamiques autour desquelles se développent maintenant diverses activités connexes. L'économie et les communautés de plusieurs régions ou quartiers de plus grandes villes ne s'en portent que mieux. J'ai discuté du contexte général de la microbrasserie au Québec avec Marie-Ève Mirand, directrice générale de l'Association des microbrasseries du Québec.
Les derniers chiffres qu'on publiait à la MBQ datent de début novembre et on était à 242 microbrasseries au Québec. 242 permis. Alors, il faut comprendre que certains détenteurs de permis, certaines entreprises ont plus d'un permis, mais on est à 242 permis.
Et on peut penser, et on pourrait le démontrer rapidement, qu'il y a des projets qui sont en préparation.
Il y en a encore une quarantaine, là, selon la tenue de registre que la RACJ, la Régie des alcools, des courses et des jeux, tient. Là, il y en avait encore une quarantaine là, qui étaient dans le pipeline, là, donc qui sont en préparation, qui ont fait une demande de permis, mais que le permis n'est pas encore octroyé.
S'il y a quelques 250 microbrasseries ou permis de microbrasseries, on est rendu à combien de produits? Est-ce qu'on peut faire le décompte de ça?
Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais il y a des entreprises qui se sont amusées à le faire pour 2018. Puis j'aurais le goût de vous lancer la question. Combien de bières différentes on a retrouvées sur les tablettes en 2018, vous pensez?
Je ne sais pas, mais c'est plusieurs.
On identifiait quelques 4000 différents produits, là. Donc, c'est énorme. Même quelqu'un qui voudrait suivre le marché, ça devient extrêmement difficile parce qu'il y a une offre là, qui est extrêmement grande. Les microbrasseries, c'est pas rare qu'ils ont 30, des fois 40 produits en incluant leurs produits réguliers, les produits saisonniers. Donc, c'est avec la multiplication des microbrasseries, la multiplication des offres, c'est définitivement un marché de nouveautés.
Et est-ce qu'on peut penser que ces entreprises-là visent surtout leur marché immédiat à la périphérie de leurs installations comme marché, ou est-ce que plusieurs d'entre elles, et est-ce que ce serait la majorité, je ne pense pas, là, qui souhaitent une distribution provinciale, beaucoup plus large?
En fait, évidemment, comme je pense que vous l'avez bien souligné, là, le premier marché des microbrasseries, c'est vraiment le marché très local, très régional, souvent à partir même du site de production, donc qui accueille les gens pour découvrir les produits, ont un petit salon de dégustation, certains ont des pubs, en fait, plusieurs en ont. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, bien, tu sais, toutes les épiceries du coin vont être des fiers ambassadeurs de leur microbrasserie locale. D'ailleurs, au passage, je soulignerais là, que on a plus de 30 % des microbrasseries qui sont établies dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc ça fait vraiment mettre en perspective l'ancrage très local là, que les microbrasseries ont à travers le Québec. Par ailleurs, une fois qu'ils ont passé le seuil très régional, souvent, ils vont se retrouver chez des détaillants spécialisés en bière de microbrasserie qui, eux, se retrouvent à travers le Québec, mais ça va quand même être une distribution qui est très limitée. Il y a certains amateurs là, qui se spécialisent là-dedans, donc le consommateur sait que pour avoir un choix plus diversifié, il est capable d'aller chez ces détaillants-là. Et puis, finalement, bien, d'autres vont investir un créneau qui est du détail chez les détaillants de façon plus large à travers le Québec. Et là, bien, évidemment, là, c'est beaucoup plus d'efforts. Ça prend une production qui est un peu plus grande pour soutenir cette demande-là. Mais ça demande aussi là, des infrastructures plus grandes en termes de distribution, en termes d'accompagnement, en termes de suivi là, au niveau de ces différents détaillants-là.
On peut penser également qu'il y a une certaine confusion. Qu'est-ce qui est une microbrasserie? Jusqu'où une entreprise peut grossir? De quelle façon peut-elle se transformer avant de ne plus être une microbrasserie?
Oui, absolument, absolument. Cette confusion-là, je vous dirais que c'est un grand défi pour nous et c'est ce sur quoi on va s'atteler dans les prochaines années, là, essayer de mieux circonscrire le carré de sable que constitue celui des microbrasseries. Là. Pour nous, en fait, et un des enjeux qu'on a, c'est que le gouvernement ne reconnaît pas de définition de ce qu'est une microbrasserie. Pour l'Association des microbrasseries, pour nous, c'est très clair qu'une microbrasserie, c'est un détenteur de permis. Que ce soit un permis AB ou BR. Là, il existe deux types de permis au Québec là, qu'on peut utiliser. Donc, c'est un détenteur de permis qui brasse ses produits au Québec et dont la production est en deçà de 500 000 hectolitres. Donc ça, c'est la définition de ce que nous, on reconnaît comme étant une microbrasserie du Québec. Il y a une autre disposition aussi qui, pour nous, est importante. La microbrasserie en question ne doit pas être affiliée à un producteur sur la scène internationale produisant plus de 1 million d'hectolitres. Donc, ça fait en sorte qu'une petite microbrasserie qui serait rachetée par un conglomérat international ne pourrait plus être reconnue, selon notre lecture, là, comme étant une microbrasserie.
Et on l'a vu au Québec, il y a quelques cas très réputés de grandes brasseries de haut niveau, commercialement parlant, et qui ont acheté des microbrasseries et qui continuent de faire le marketing de ces produits-là. Et pour ces entreprises-là, c'est une façon de dire, nous aussi, on fait des produits artisanaux à petit volume.
Exact. Et je vous dirais que c'est effectivement probablement une des raisons qui explique la confusion dans la tête du consommateur entre qu'est-ce qu'une bière de microbrasserie, qu'est-ce qu'il n'y en est pas. Des fois, les importations entrent en jeu aussi là, dans toute cette lecture-là qu'ils ont. Pour nous, dans le fond, tu sais, c'est la philosophie qui est aussi importante. Hein? Une philosophie derrière une microbrasserie, c'est d'abord et avant tout d'être sur le terrain, d'être présent, d'avoir des emplois dont les bénéfices retournent à la collectivité. Souvent, on est aussi avec l'achat de produits qui sont locaux. On fait travailler des entreprises de services. Donc, on a vraiment un impact économique qui est ici, par des gens d'ici, puis qui demeure ici. Et ça, c'est bien important pour nous.
Il y a le volet économie locale et, je dirais même aussi, en parallèle, festivité locale.
Bien, les microbrasseries sont très bien implantées dans leur milieu. Hein. Souvent, c'est un catalyseur, hein, une microbrasserie. Puis on a moult exemples un peu partout à travers le Québec de microbrasseries qui sont arrivées dans un endroit, qui se sont implantées, puis où on a vu une redynamisation des territoires, là, où les gens, justement, avaient un lieu vers lequel converger pour échanger, se rencontrer. Et là, bien, ça donne des petits, finalement. Là, il y a d'autres types de commerces qui se greffent autour. La Gaspésie regorge d'exemples de cette nature-là, pas loin de Québec aussi. On pense au Grand Bois à Saint-Casimir, à l'Affût à Saint-Tite en Mauricie. Il y en a plusieurs des exemples là, où la dynamisation, puis ça, on en est très fiers, mais tu sais, nous, on prétend que la dynamisation puis l'occupation des territoires passe aussi par la présence des microbrasseries partout à travers le Québec.
Tout ça dans le contexte où on parle beaucoup et de plus en plus dans tous les secteurs de consommation, et là, parlons surtout boissons, aliments, etc., les marchés de proximité. L'importance des marchés de proximité, donc de la production et de l'achat local.
Exact. On souhaite pouvoir être en contact avec les consommateurs, leur partager la passion du producteur. Souvent, c'est ça, hein, c'est qu'on va créer une bière saisonnière en fonction des fruits qui nous sont apportés par le producteur de cassis ou de petits fruits X du coin. Et là, ben, ça va donner des idées de recettes au brasseur, à l'équipe de production qui va mettre ça en place, qui va faire une fête pour lancer ce produit-là. Donc, nous, parmi nos demandes, puis on a évidemment, là, pour soutenir le développement puis la poursuite de ce qu'on connaît actuellement comme beau développement là, dans l'industrie, parmi nos demandes, bien, on souhaiterait pouvoir être dans les marchés publics pour présenter ces produits-là aux consommateurs. Là. On a la chance d'avoir plusieurs festivals de découvertes qui permettent aux consommateurs d'en savoir plus, de se familiariser avec les produits, mais on souhaiterait le faire sur une base plus quotidienne aussi, là.
Et dans le même contexte, vous avez actuellement, je pense, une table de travail où vous collaborez avec des gens, entre autres, de l'Union des producteurs agricoles, justement pour essayer de concevoir, de penser une façon d'aborder ce marché de proximité de façon plus efficace.
Oui, c'est une toute nouvelle table qui a été mise en place sous le leadership de l'Union des producteurs agricoles. Puis, dans le fond, ça vise à réunir des acteurs qui ont ce souci-là là, de l'alimentation de proximité pour essayer de trouver des dénominateurs communs ou en tout cas de faciliter des voies de passage pour favoriser ces circuits courts-là. Là.
Revenons au marché immédiat. Là. C'est un secteur où la concurrence est très vive. Elle est très vive, est-ce qu'on peut le dire, elle est vive entre microbrasseries elles-mêmes ou encore il y a un partage du marché qui se fait de façon harmonieuse entre les microbrasseries? Là.
Bien, je vous dirais que c'est un peu des deux. D'une part, c'est sûr que face au consommateur sur la tablette. Le consommateur va acheter le produit de la microbrasserie X ou le produit de la microbrasserie Y. Fait que c'est sûr qu'ils sont compétiteurs, là, concurrents sur la tablette. Par contre, ce qu'on observe, puis ce qui est quand même caractéristique de l'industrie, c'est que la passion pour le produit est souvent plus importante ou en tout cas a une importance suffisante pour faire en sorte qu'ils sont quand même alliés et collaborateurs dans d'autres sphères. Fait que là, depuis plusieurs années, on voit la popularité croissante là, des bières collaboratives où, tu sais, deux microbrasseries s'associent pour un brassin en particulier, puis bon, échangent des techniques, échangent des recettes, se réunissent autour d'une bière, bon, brassent le produit, puis après ça, bien, ils le mettent en marché. Mais, tu sais, cette espèce d'esprit-là de confrérie, on le retrouve. Évidemment, certains disent « Ah, c'est plus ce que c'était dans le temps. » Tu sais, on était soudés, serrés, il y avait 20 microbrasseries au Québec. Mais la game est différente aujourd'hui. Mais je vous dirais que cet esprit-là de grande fraternité demeure. Et évidemment, évolue avec les enjeux commerciaux, avec le fait qu'il y ait plus de joueurs. Donc, c'est là où nous, comme association, on a à travailler pour... Un, inviter davantage de consommateurs à découvrir nos produits et à les consommer sur une base plus régulière. Et de deux, ouvrir d'autres marchés aussi. Il y a assurément des espaces où les microbrasseries ne sont actuellement pas disponibles, où les produits de microbrasserie ne sont pas un réflexe et vers lesquels on pourrait tendre. On a encore énormément de parts de marché qu'on est capable d'aller chercher au Québec. Donc, il faut travailler là, pour faire en sorte que la pointe de tarte des microbrasseries grandissent et que le gâteau complet grandisse lui aussi. Là.
Et justement, la part des géants de la brasserie diminue sur le marché. Là. Il y a peut-être une quinzaine d'années, les gens des grandes brasseries disaient ne pas être trop inquiets du phénomène des microbrasseries, mais maintenant, ils sont non seulement inquiets, mais ils réagissent. Là.
En fait, le marché de la consommation de la bière au pays diminue. C'est très lié au vieillissement de la population, là, où une population vieillissante consomme moins par habitant qu'une population plus jeune. C'est un des éléments. À l'intérieur de cette décroissance-là d'industrie qu'on connaît, il y a deux segments qui sont en grande croissance. Les microbrasseries le sont et les bières importées le sont également. Fait qu'à l'intérieur de ça, le segment qui est comme en sandwich un peu entre une décroissance et l'augmentation des autres part de marché, bien, ce sont les produits domestiques des grands brasseurs.
On peut faire des parallèles au phénomène des microbrasseries avec le secteur fromager. Multiplication des petites fromageries à travers le Québec et un marché souvent très local, mais avec des points de distribution dans différents commerces spécialisés. Vous-même, le voyez-vous à peu près de façon semblable?
Absolument. Je pense que le parallèle est bon parce que dans un cas comme dans l'autre, ce sont des artisans qui ont une passion du produit, qui ont une créativité, qui testent toutes sortes de choses. Et c'est ces producteurs-là, dans le fond, c'est notre terroir, c'est qui on est, puis ils sont tous très, très différents. Fait que je pense que le parallèle est bon.
D'autres alcools que l'on retrouve de plus en plus sur les marchés, les microdistilleries au Québec qui multiplient les produits de haute qualité également, est-ce que ça ne vient pas vous tirer du marché également?
Bien, je vous dirais que l'attrait, le goût pour des produits gustativement intéressants, je le vois pas a priori, moi, comme étant une compétition. Plus les gens vont avoir un intérêt, tu sais, de développer leur goût, leur préférence pour différents produits, plus on va creuser dans la voie qui est celle des microbrasseries. Et je pense qu'on a tous le même défi à cet égard-là, autant les fromagers que les autres producteurs de boissons alcooliques plus artisanales, c'est de faire comprendre aux consommateurs la valeur de ce qu'on produit. Pourquoi est-ce que ça coûte plus cher le litre de bière, une bière de microbrasserie, qu'un produit qui provient du grand brasseur? Pourquoi est-ce que le fromage produit par un petit artisan est plus cher à l'achat au gramme qu'un produit fait par une méga fromagerie? Mais tout cela réside dans le savoir-être, dans le réseau de distribution, dans le caractère authentique et unique du brasseur. On a le grand défi de faire passer au-delà du dollar qui accompagne notre produit, l'histoire puis ce que ça représente.
Donc, on est vraiment là dans les terroirs, dans l'identité aussi et dans le soutien d'une économie locale. Et ça, c'est pas rétrograde de le voir ainsi. On développe et on maintient et on ramène de l'activité dans des terrains, dans des territoires qui très souvent dépérissaient.
Bien, c'est ça, je le disais tout à l'heure, là, 30% sont dans des petites villes de moins de 10 000 habitants. On est dans 16 des 17 régions administratives. Il y a une microbrasserie sur la côte nord, Pays de Gilles Vigneault. Il y a une microbrasserie qui vient d'ouvrir en Attachquan. Donc, tu sais, puis plusieurs vont être très créatifs, vont utiliser des herbes qui proviennent de leur coin, vont aller à la chasse aux saveurs qui sont un peu différentes. Encourager une économie locale, encourager une microbrasserie, c'est au-delà d'un produit, d'un goût, c'est une philosophie, puis c'est de l'argent qui demeure ici.
En terminant, Marie-Ève Mirand, l'avenir de la microbrasserie au Québec, il y a encore de la place et les prochaines années vont être aussi productives, je dirais, en création de nouvelles entreprises et de produits également.
On est actuellement, bien, selon les dernières données dont on dispose, là, qui datent de 2016, on est à 11 % des parts de marché. Bon, peut-être qu'on pourrait dire là, qu'on est peut-être à 12-13 % aujourd'hui, là, mais il y a certains États, on a plusieurs comparables où les microbrasseries sont de l'ordre de 25-30 %. Le défi qu'on a est celui d'amener le consommateur dans notre histoire, dans nos saveurs, dans ce qu'on a à lui proposer, qu'il fasse ce bout de chemin-là avec nous. Et pour ça, ben, on a encore beaucoup d'espace à les prendre. Donc, l'industrie d'aujourd'hui, oui, c'est vrai que, tu sais, il y a certains enjeux qui peuvent exister. On est de plus en plus nécessiteux d'avoir des saines pratiques de gestion, de commencer à se détacher à certains égards là, de l'aspect 100% artisanal en lien avec les produits, mais tu sais, de se questionner sur des coûts de revient, sur des processus. Et ça, ça fait partie du développement de l'industrie en termes de maturité. Donc, je pense qu'il y a des enjeux là-dessus. Les microbrasseries vont faire leur bout de chemin par rapport à ça, mais le consommateur, c'est pour lui d'abord et avant tout qu'on est là. Si le consommateur n'était pas au rendez-vous, ne nous suivait pas dans ce développement-là, bien, c'est sûr qu'on ne pourrait pas poursuivre. Mais honnêtement, la popularité des événements découvertes, la présence des microbrasseries un peu partout, là, nous font en tout cas penser qu'il y a encore un avenir, puis un très bel avenir pour les microbrasseries.
Tout ça à travers une réglementation qui doit évoluer encore.
Ah, absolument. Je vous dirais que c'est sûr que comme association, c'est beaucoup notre cheval de bataille numéro un. Là. Toutes les lois, les règlements, on en a au-delà de 35, là, 30-35 qui viennent encadrer ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on... Bon, donc c'est extrêmement contraignant. Tout ça dans un contexte aussi où on a 60 % de l'industrie qui a moins de 5 ans. Fait que ça, c'est un bon défi comme industrie à accompagner toutes ces entreprises-là qui sont vraiment à la mise en place de leur activités vers le développement.
Bien, Marie-Ève Mirand, merci beaucoup.
Merci.
Ici Lionel Levac. Je dis souvent à propos des fromages québécois, goûtez, cherchez du nouveau. Eh bien, je vous le dis maintenant à propos des bières de nos microbrasseries. Au revoir.